Écoutez. Écoutez bien.
C'est Bruit de fond avec Thomas Capron.
Ça marche, bon là. Je continue le long de la coursive. Il y a une deuxième porte avec un autre interface.
D'accord. À tout de suite.
C'est bon. C'est au quatrième étage.
D'accord, à tout de suite.
Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, Laurent nous reçoit chez lui à Rouen, rive gauche. Laurent est disquaire et écrivain. C'est à l'écrivain que Bruit de fond donne la parole et comment le désir d'écriture accompagne sa vie.
Salut, ça va ?
Mes premiers émois littéraires, ouais, c'était, bah, en fait, c'est grâce à un prof de français que j'avais en quatrième et en troisième au collège, et qui donc était une espèce de, un peu de hippie à l'époque dans l'éducation nationale, quoi. Et ce prof, moi, m'a vraiment fait découvrir mes premiers poèmes, mes premiers textes avec Baudelaire, avec Apollinaire, avec Rimbaud, Verlaine et tout ça, quoi. Donc c'était vraiment, c'était la révélation. Et ça m'a vraiment donné envie de lire la poésie, les Lautréamont, les Apollinaire et tout ça. Mais depuis tout petit, je bouquinais vachement, en fait. Ouais. J'avais hérité de la bibliothèque de mon père. Donc je lisais, je comprenais peut-être pas tout, mais j'ai été vraiment...
Je dévorais les livres,
ouais. Au sens propre comme au figuré, parce qu'en fait, j'en mangeais aussi des vrais. Et donc après, quand j'étais au lycée, je me suis mis à écrire. Tout simplement, j'ai écrit un premier poème, j'étais en première. Moi, j'étais en première A, bien sûr, en première littéraire. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement que choisir littéraire parce que j'étais une brêle finie en maths. Du coup, je me suis retrouvé donc dans le cycle, un cycle littéraire, et donc avec tout à coup cette envie d'écrire qui m'est vraiment tombée dessus, quoi. Je ne sais pas comment ça s'est fait, j'étais au fond de la classe, j'avais pas encore mon bonnet sur la tête à l'époque, ça c'est venu après le bonnet. Et puis voilà, quoi, je me suis mis à écrire un poème, et puis après il y a eu le deuxième, le troisième, et puis voilà. Quoi,
ce premier poème, ça, c'était quoi?
C'était une histoire d'amour, c'était vraiment quelque chose, il y avait une histoire avec une fille à l'époque, et... Je sais pas si elle m'aimait plus, ou si je l'aimais, ou si c'était un amour perdu, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas là-dedans. Ouais. Comme tout poète, j'étais désespéré, bien sûr. Et donc j'ai écrit ce poème qui racontait un peu la perte de l'amour, quoi, la perte de la chair, la perte du cœur et tout ça, quoi. C'était vraiment moi j'appelle ça la poésie d'adolescent, quoi. C'est pas, ça n'a pas vœu de faire œuvre de littérature. Après, je me suis amusé à rimer. Ça me plaisait bien. Ouais. Je faisais carrément des quatrains. Enfin, bon, même tout ce qui était sonné et tout. Après, je faisais de la versification. Là, après, je suis vraiment tombé dedans avec de plus en plus d'images un peu raffinées, tout ça, un peu symbolique, un peu tout. Et donc, je passais mon temps à ça et je foutais plus rien en classe, quoi. Et là, j'ai mis mon bonnet sur ma tête. J'ai laissé pousser mes cheveux et voilà, quoi.
Parce que t'as écrit le premier poème. Et t'as pas posé le stylo après, quoi.
Non, j'ai écrit le premier poème et ça a enclenché le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis après, j'étais parti, quoi. Je me suis mis à écrire.
Donc, j'écrivais vraiment tout le
temps. Ouais, j'écrivais tout le temps. C'était dès que j'avais 5 minutes, j'écrivais. J'avais toujours des trucs qui me passaient par la tête. J'avais toujours une petite idée comme ça qui se baladait. Je notais, je réécrivais, je travaillais les textes. Ça te marginalise un petit peu finalement parce que t'es là, tu bosses plus trop, tes parents te demandent ce qui t'arrive. Et puis c'était bien parce que j'avais l'impression de faire partie de cette confrérie des Rimbaud, des Verlaine. Ouais, je me prenais pour Verlaine, quoi. Je voulais être poète, quoi. Je voulais plus faire autre chose que ça de ma vie. Et je me souviens d'avoir été vachement marqué à l'époque par les lettres à un jeune poète de Rilke. Donc c'était des lettres qu'il a écrites à un jeune poète qui lui avait envoyé ces textes. Et notamment, il expliquait que si un jour, il sentait que si on l'enfermait dans une prison et qu'il mourait de ne pas pouvoir écrire, c'est là où il serait vraiment un poète, quoi. Et moi, je me sentais vraiment dans cet état. Alors bien sûr, on est vachement influencé quand on est gamin par tous ces écrivains, finalement. C'est vrai que nos parents ont raison, ils ont une mauvaise influence sur nous. C'est pire que les punks. Donc les rappeurs, les poètes ont une forte influence, en fait, sur les adolescents. Et ces textes, cette phrase de Rilke m'avait vachement impressionné. Je pense qu'à l'époque, je me suis aussi, transporté dans cette perspective. C'est-à-dire, effectivement, si je n'écris pas, je meurs, quoi. Alors, c'était vachement romantique, quoi, parce que bon, puis Rilke, c'est très romantique, hein. Il y a ce côté aussi très, très jusqu'au boutiste des poètes romantiques, des Rilke et des poètes notamment, les Allemands, les Danois, les Scandinaves sont très comme ça. Ils sont très branchés nature, tout ça. Ils sont très à l'écoute. Hein, toute la poésie romantique allemande est comme ça. Et en plus, le romantisme, c'est ça. C'est vraiment si je n'écris pas, je meurs. Si je ne peux pas aimer cette femme, je meurs. Enfin bon, il y avait pour un ado, c'est vrai que c'est assez séduisant, quoi. Et puis il y avait à côté de ça, il y avait le côté assez destroy de gens comme Lautréamont aussi ou comme Rimbaud, qui étaient des espèces de punks avant l'heure, des types qui avaient vraiment été jusqu'au bout, qui avaient tout bazardé, qui étaient partis faire du trafic pour Rimbaud, pardon, en Afrique et tout. Il y avait ce côté aventure aussi, il y avait ce côté aventurier, et ça c'était vachement intéressant. Donc ça donnait pas tellement envie de travailler, ni de se situer dans un contexte de vie trop banal, quoi. J'ai écrit la poésie jusqu'à à peu près 24-25 ans. Entre-temps, je me suis mis à écrire des nouvelles aussi.
Pourquoi ?
Je pense que la poésie, peut-être qu'elle s'est à un moment transformée en envie de passer à la fiction. C'est-à-dire que plutôt que de raconter mes petits malheurs, mes machins, ou même si c'était plus trop ça, mais j'avais envie de raconter des histoires, en fait. Et du coup, j'ai commencé à monter une petite histoire, une deuxième, une troisième, puis voilà, ça s'est embrayé comme ça. Donc c'était des histoires assez brèves, sur des personnages un peu décalés, c'était un peu couleur noire, quoi, très... À la première nouvelle, en fait, c'était l'histoire d'un assassin qui se baladait avec un paravent. Donc c'était, ouais, une espèce de tueur à gages, on savait pas trop bien ce qu'il traficotait, mais il tuait des gens, il se cachait derrière un paravent, donc il y avait... des personnages décalés qui se trouvaient un petit peu confrontés à la frontière de la réalité, de leur propre irréalité, quoi. C'était plutôt des nouvelles un peu imaginatives, de vie un peu rêvée, comme ça, des petites tranches de vie de gens un peu à part, comme moi, peut-être je l'étais moi-même dans ma petite piole de, comment on dit, de premier travailleur, enfin de...
Oui, oui.
de débutant, de travailleur débutant, quoi. Oui. Et puis voilà, donc après ça s'est enchaîné et j'ai eu envie. Il y a eu des lectures après assez fortes. Il y a eu Céline, bien sûr. Il y a eu les écrivains américains, les écrivains tels qu'Elroy ou d'autres, Chester Himes, tous ces écrivains qui ont vraiment, je dirais, qui viennent de un peu de la rue comme ça, qui sont pas des universitaires, mais qui sont vraiment des gens qui ont appris leur métier en vivant, quoi. Et ça me plaît bien. J'aime beaucoup cette veine un peu réaliste et noire aussi de la littérature.
Ah oui.
Donc ça, après, ça m'a influencé. Et puis j'ai commencé à écrire mon premier bouquin sur une histoire que m'a raconté un type qui revenait d'Afrique, sur des gamins qui étaient violentés par des colons en Afrique. Et puis voilà, moi j'ai transposé cette histoire sur les États-Unis et je suis parti à écrire mon bouquin dans un style beaucoup plus brut. Parce que déjà, l'histoire que j'allais raconter était très brutale, et je ne me voyais pas raconter ça d'une manière classique, très, avec une écriture très, très léchée, très, très française. Je voulais casser la phrase, quoi. Je voulais vraiment briser cette espèce de carcan qui était une jolie phrase, bien faite, et tout ça. Ça faisait partie de mon... C'était raconter une histoire vraiment enseignante, mais humaine. Hein. Je ne voulais pas raconter une histoire violente pour une histoire violente. C'était la violence qui avait été faite à des personnages... qui était raconté donc de cette façon, qui était brute, quoi, qui pouvait pas être autrement. Voilà, en fait, c'était vécu de l'intérieur.
T'as été touché quand même par cette histoire.
Ah oui, tout à fait. Bah oui, c'était un choc parce que bon, à l'époque, j'avais pas d'enfant, donc je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si je pourrais réécrire cette même histoire, mais c'est vrai que ouais, c'était choquant. Je veux dire, c'est clairement, c'était des histoires de viol de bébés en Afrique, quoi. C'était bon, ça n'est pas arrivé qu'en Afrique, j'imagine bien, mais c'était inimaginable à l'époque. On parlait pas encore vraiment de tous les problèmes de pédophilie. Il n'y avait pas toutes ces histoires qui traînaient, quoi. Donc on était un peu encore innocents. C'était un peu toujours cette. On a tous un peu perdu notre innocence ces dernières années, je trouve. Et c'est vrai que quand ça m'a été raconté, j'ai pris quand même une sacrée claque, quoi. J'ai pris conscience finalement d'une violence. J'ai peut-être pris conscience finalement de la violence du monde, quoi. Je sais pas. Bêtement comme ça, mais ça m'a choqué suffisamment pour que j'ai envie de raconter ça, oui, tout à fait. Oui. C'était assez fort. En fait, si tu veux, l'histoire, c'est donc un frère et une sœur qui sont abusés tous les deux par un propriétaire terrien, et dont les parents sont plus ou moins complices, en fait, je dirais d'une façon passive, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils sont un peu les esclaves eux aussi, ils sont un peu les... C'est l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis, hein. C'est les gens étaient propriétaires de main-d'œuvre et on faisait ce qu'ils voulaient, donc après on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc cette violence qui a été faite à ces enfants, à l'adolescence, elle explose bien sûr, ça c'est normal. Donc l'histoire, c'est le meurtre du violeur. Et puis là, un espèce de road movie, de voyage que vont faire le frère et la sœur à travers les États-Unis, en semant la mort et la violence sur leur passage, jusqu'à une forme de rédemption qui va leur permettre d'échapper à tout ça.
Oui. Ce jour-là, j'ai tué le prêtre. Il me rappelait trop mes propres tourments. Peut-être était-il plus rongé de remords que ne le furent jamais mes parents. Je ne le saurais pas. Ils sont aujourd'hui morts. Muets. Je ne me souviens ni Magnolia de nos premières visites à Don Corré. Nous étions très petits, des nouveau-nés. À quel moment la conscience de l'horreur nous est-elle venue? Je ne peux pas le dire. Une seule évidence. Dès que nous naquîmes, nous fûmes destinés à ce salopard de propriétaire. Chaque dimanche, nos parents nous emmenaient dans la vaste demeure blanche et nous abandonnaient là pour l'après-midi. Tant que nous fûmes de petites larves aveugles et muettes, tout se passa bien. Nos parents pensaient peut-être que Don Corré se lasserait un jour et jetterait son dévolu sur d'autres enfants. Cependant, comme un maître à son esclave, Don Corré s'attacha à nous. Nous étions ses bébés, ses petits-enfants. À l'âge de 4 ans, Magnolia lui mordit la bite. Il nous battit. Nous sommes rentrés, couverts de bleu, chez nos parents. Mon père culpabilisa pour de bon et nous promit sa protection. En réalité, on y retourna dès le dimanche suivant. Corée avait menacé la famille d'expulsion. Peut-être même de la pendaison. On ne pouvait pas arrêter le jeu. Chaque fois qu'on le suçait, il pleurait d'amour. Il exhalait une sueur énorme. Ses battoirs enserraient la nuque de Magnolia. J'avais 10 ans. Magnolia, 11. Elle était ma grande sœur. Je pouvais rien tenter pour la soustraire à ça. Les bouffées de haine roulaient en moi, à m'étrangler. Un vertige. Dans la pénombre du dimanche soir, d'une petite tape sur les fesses, Corée nous renvoyait à nos chers parents. Notre père nous attendait au bout de l'allée, son chapeau à la main. Je détestais son air soumis. Craignait-il la colère de Don Corée ou la nôtre? Quand nous rentrions, un plat de lentilles fumait dans la gamelle familiale. À gerber.
Et donc ce premier roman-là est publié.
Et oui, ce premier roman est publié.
C'est quand même
en fait,
pas mal.
Bah oui, j'étais plus que content parce que j'avais envoyé pas mal d'éditeurs et puis Laurence, donc ma chère et tendre muse, m'avait dit bah tu devras envoyer aussi à l'éditeur Baleine qui à l'époque donc était l'éditeur du Poulpe, le personnage donc qui était un personnage récurrent dont on a pas mal parlé, qui était un type un peu comme ça à part, qui enquêtait dans les sous-couches, les sous-bois de la société française. Et ils étaient aussi donc éditeurs de Polar, et donc je leur envoyais mon bouquin. Et je sais pas, c'était à peu près un mois après, un mois et demi, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils étaient en train de le lire, qu'ils aimaient bien et que voilà, ça les intéressait de publier quoi. C'était un moment magique quoi, c'est pas possible quoi. Et puis on rentre dans un autre univers en fait. On a écrit le bouquin, enfin on a écrit le manuscrit, on a vécu avec les personnages pendant un certain moment, on a été là avec eux, et puis voilà, on balance ça, ces espèces de bouées de bouteilles à la mer plutôt quoi. Donc il y a à peu près 10% de chance, je dirais, que ça fonctionne quoi. Donc c'est forcément, ça donne envie de continuer. Oui. Donc c'est vrai qu'après, j'ai continué à écrire, j'ai écrit un autre bouquin, et
donc
puis
un deuxième roman
qui était donc... Alors le premier s'appelait Bafoué, là c'est Le chien d'en face, ce deuxième roman. Donc là qui est plutôt une histoire d'amour complètement folle, très noire aussi, très violente, dans pareil, toujours aux États-Unis, ça se passe aussi aux États-Unis, dans un milieu très... Le milieu des petites frappes quoi, vraiment des petits macs et des petits bidouilleurs, des petits camés, des petits revendeurs, enfin vraiment très vrai quoi hein. C'est vraiment tel qu'on peut imaginer la petite frappe de quartier quoi hein, qui est tellement fou amoureux de sa femme qu'il veut, en fait il veut la tuer quoi, voilà quoi. Donc c'est toute l'histoire, c'est comment est-ce qu'il va faire pour tuer sa femme, est-ce que c'est lui qui va la tuer, est-ce qu'il va la faire tuer, enfin bon, il y a tout ça, ils font un voyage, tout ça. Enfin, il y a vraiment toute une histoire assez... Et ce qui me plaisait, en fait, c'était de décrire cet amour fou et toutes les tensions qu'il peut y avoir, en fait, finalement, au cœur d'un couple, et puis qui peut aller jusqu'à la mort, quoi, qui peut aller jusqu'à la destruction de l'autre et sa propre destruction, parce que, bon, c'est, si on détruit l'autre, on se détruit aussi, bien sûr. Quoi. Et donc ça me plaisait bien de parler de tout ça, parce que c'est toujours pareil, c'est aussi peut-être ma propre violence qui s'exprime comme ça. J'ai dépassé le cap du pur poète, on va dire, pour devenir quelqu'un de, peut-être qui exprime un peu plus sa violence, mais c'est vrai qu'elle est, c'est bien de l'exprimer aussi. Et puis au travers de ça, c'est bien aussi parce que ça permet vraiment de travailler, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de travailler le style d'écriture et de donner un petit peu à lire, je dirais. Un petit peu le chaos qu'il peut y avoir en soi, sans le parer des beaux atours d'une belle langue, d'une belle écriture, telle qu'on a un peu trop souvent tendance, à mon sens, à vouloir le faire. Quoi.
Et donc le deuxième roman est aussi publié
chez Baleine, tout à fait, ouais. Donc, C'était
100% de réussite.
Ah ouais, c'est 100% de réussite, mais bon, c'est vrai que c'était c'était toujours super parce que bon, je leur propose un deuxième roman qu'ils ont pris, c'était bien en fait de perdurer quoi, de se dire bon bah c'est pas quelque chose qui est comme ça un coup et puis après c'est terminé. C'est vrai que tout à coup, j'avais raccroché ce à quoi j'aspirais depuis toujours quoi. Me la péter, les mecs, ça y est, je suis écrivain. Parce que c'est vrai, finalement, il n'y a rien de plus formidable que d'être écrivain. C'est de se poser devant sa feuille de papier, devant son ordinateur, et puis de se dire, bon, bah voilà, je me fous là, et il va se passer quelque chose. Et c'est vachement intéressant, c'est vachement stimulant, on ne sait pas pourquoi c'est là, quoi. C'est comme ça, ça vient, quoi. Et ça, c'est génial. C'est vrai que c'est une chance. C'est une chance de... Enfin, je sais pas. Ou c'est une malchance, je sais pas. Il y en a qui... Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi. Hein. Ça se fait pas comme ça. Et c'est jamais acquis, quoi. C'est qu'un bouquin, un manuscrit, un poème, quoi que ce soit, ce qu'il faut, c'est toujours que ce soit un ensemble parfait ou presque parfait. Il peut y avoir des petits défauts, mais il faut vraiment qu'on aille tailler vraiment ça comme un diamant, quoi. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit violent ou que ce soit sur la laideur, quoi que ce soit. Mais... C'est un objet en soi, c'est une espèce de... C'est vraiment quelque chose de pur, quoi. Donc l'écriture, oui, bien sûr, ça fait partie de ma vie, au même titre que mon épouse, mes enfants, que mon travail, enfin, c'est complètement imbriqué, quoi. Donc c'est vrai que je deviens un peu chiant, malheureusement, si j'arrive pas à écrire, quoi. Donc c'est quelque chose de vital, je peux le dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté important, et c'est vraiment une fibre qui est en moi, quoi, qui... Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, on verra bien, ça c'est pas grave, ça sera comme ça, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie intégrante de mon histoire.
Voilà, merci à Laurent pour nous avoir fait partager son plaisir de l'écriture. Si vous êtes tenté, vous pouvez trouver aux éditions Baleine dans la collection Instantanée de Polar ces deux romans Bafoué et Le chien d'en face. Et comme il continue d'écrire, alors surveillez les prochaines parutions chez votre libraire. Vous retrouverez tout ça sur www.bruitdefond.free.fr, www.bruitdefond.free.fr. Recherches et mises en voix Alice Dehay, relations invitées Michael Frébourg, montage et réalisation Thomas Capron. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut !